À l'écoute d'RFI, 22h à Paris et à Varsovie, 20h en temps universel.
Joanne Burgel.
Bonsoir et bienvenue à tous. Voici votre journal en français facile. Au sommaire, l'élection présidentielle en Pologne. Selon les premières estimations, le président sortant Duda est légèrement en tête face au maire de Varsovie. Nous serons sur place dans un instant. Le sauvetage du dispositif d'aide humanitaire en Syrie, une bouée de sauvetage pour l'ONU. Mais pour éviter les vétos russes et chinois, il a fallu ne conserver qu'un seul point de passage aux frontières, comme le voulait Moscou. Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus dans le monde a connu un record ce dimanche. Le Premier ministre français Jean Castex était en Guyane, où le virus est encore très actif. Désormais, pour savoir si vous avez été en contact avec le Covid-19, des tests rapides sont disponibles dans les pharmacies françaises.
Le journal en français facile.
Nous commençons donc ce journal avec le second tour de l'élection présidentielle en Pologne. Les bureaux de vote ont fermé. Il y a maintenant une heure, les Polonais devaient choisir entre deux hommes que tout oppose. D'un côté, le président sortant, Duda, soutenu par le PiS, le Parti conservateur et nationaliste. De l'autre, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, un libéral et pro-européen. La participation a, semble-t-il, été élevée et selon les premières tendances, le président Duda a une légère avance. Anastasia Becchio, vous êtes en direct du siège des soutiens du maire de Varsovie. Alors comment se déroule cette soirée? Quelle est l'ambiance?
Eh bien, la pelouse s'est rapidement vidée une fois Rafał Trzaskowski parti il y a déjà une demi-heure. Militants et sympathisants repartent chez eux avec l'espoir que les premiers résultats officiels attendus demain matin n'inversent la tendance. Dès l'annonce des résultats sortis des urnes à 21h, Rafał Trzaskowski est arrivé aussi au parc des Fontaines Multimédia, un parc situé au bord de la Vistule. Sur une scène dressée au milieu d'une grande pelouse, il s'est immédiatement adressé à ses soutiens, entouré de sa femme et de ses deux enfants. La foule scandait régulièrement « Rafał président », car ici, la légère avance des conservateurs laisse un peu d'espoir parmi les militants. D'ailleurs, Rafał Trzaskowski a tenu presque un discours de vainqueur. « Nous sommes absolument persuadés que nous allons gagner. Nous sommes convaincus que ça ira. Les électeurs ont donné l'espoir que la Pologne deviendra ouverte et tolérante. » Le candidat de la plateforme civique a eu des mots durs pour ses concurrents qui ont une tonne d'argent et le pouvoir de la manipulation, a-t-il dit. Quoi qu'il advienne, il a promis de continuer le combat pour l'indépendance de la justice dans cette Pologne plus que jamais coupée en deux.
Anastasia Becchio qui nous fait donc vivre cette soirée électorale en Pologne. Les livraisons d'aide humanitaire en Syrie pourront donc continuer et cela n'a pas été facile. Une semaine de discussions et 7 scrutins. Finalement, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert, mais il a fallu faire des concessions. Cette aide humanitaire ne pourra passer que par un seul point de passage à la frontière turque. En décembre, 4 étaient ouverts et depuis vendredi, seulement 2. Cela a permis d'éviter un blocage de la Russie et de la Chine. L'ONU parle d'une bouée de sauvetage pour la population du nord-ouest syrien. Pourtant, le programme se retrouve réduit. Explication, Paul Ralifé.
Avec l'appui de la Chine, la Russie a réussi à réduire le dispositif d'acheminement de l'aide internationale dans les régions du nord syrien qui échappent au contrôle du gouvernement de Damas. Seul le point de passage de Bab el-Hawa entre la Turquie et la province d'Idlib, contrôlé en grande partie par les djihadistes, pourra encore être utilisé pour faire parvenir l'aide à quelques 3 millions de personnes. Celui de Bab el-Salam, qui desservait 1 300 000 personnes au nord d'Alep, a été exclu du dispositif. Pour Moscou, l'acheminement de l'aide à la population syrienne doit se faire en coordination avec Damas et toute autre option constitue à ses yeux une violation de la souveraineté de son allié syrien. La Russie avait réussi l'année dernière à éliminer 2 autres passages avec la Jordanie et l'Irak. Idlib, où la population vit dans des conditions humanitaires difficiles, ne sera pas affectée par le nouveau dispositif. On ne peut pas en dire autant du nord d'Alep sous contrôle turc. Les habitants de cette région comptaient sur l'aide apportée par les agences de l'ONU et d'autres ONG internationales pour assurer leurs besoins de base. Si Ankara et Damas ne compensent pas le manque provoqué par la réduction du dispositif d'acheminement de l'aide internationale, la situation humanitaire pourrait se dégrader à l'approche de l'hiver. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Six mois après le crash d'un Boeing ukrainien en Iran, un rapport de l'aviation civile iranienne révèle que c'est une erreur humaine qui est à l'origine du drame. Un radar aurait été mal réglé. L'avion a été abattu par deux missiles le 8 janvier près de Téhéran, causant la mort des 176 personnes à bord. La plupart étaient des Irano-Canadiens. 11 Ukrainiens figuraient parmi les membres d'équipage. La correspondance de Siavosh Ghazi.
L'accident s'est produit quelques heures après l'attaque d'une base américaine en Irak par les gardiens de la Révolution qui avaient lancé plusieurs missiles pour venger l'assassinat du général Qassem Soleimani, l'ancien chef du corps Quds des gardiens de la Révolution, chargé des opérations extérieures, notamment en Irak et en Syrie. Le pays était en alerte maximale pour répondre à une éventuelle réplique américaine. Le rapport de l'Organisation de l'aviation civile affirme qu'il y a eu un manquement dû à une erreur humaine. Il ajoute que l'opérateur du système radar aurait pu identifier sa cible comme étant un avion civil, mais il s'est trompé croyant à une attaque de missile américain. De plus, il y a eu ce soir-là un problème de transmission entre l'unité de défense antiaérienne et le centre de coordination chargé de la protection de la capitale. À l'époque, il a fallu 3 jours pour que les forces armées iraniennes reconnaissent avoir abattu l'avion par erreur. Après plusieurs mois de refus, l'Iran a finalement accepté d'envoyer les boîtes noires de l'appareil en France pour analyser les données enregistrées. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Un appel au calme lancé au Mali après la grande manifestation de vendredi, émaillée par des violences. Appel lancé par l'imam Mahmoud Diko, le leader du mouvement M5, qui demande à ses partisans de faire preuve de retenue, même si la lutte continue. Vendredi, 4 personnes ont été tuées. Un mouvement de protestation pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a tenté d'apaiser les tensions en annonçant la dissolution de la Cour constitutionnelle. Il n'a visiblement pas été entendu puisque ce dimanche, la situation est une nouvelle fois tendue à Bamako. Des bornes de béton rendaient la circulation difficile sur un pont de la capitale.
Le journal en français facile.
L'Organisation mondiale de la santé a enregistré dimanche plus de 230 000 nouveaux cas de coronavirus dans le monde en 24 heures. C'est un record depuis le début de la pandémie. Le coronavirus qui a fait au moins 20 000 morts au Moyen-Orient. L'autorité palestinienne annonce ce dimanche qu'elle prolonge le bouclage de la Cisjordanie occupée pour lutter contre la hausse du nombre de cas. RFI, 17h07 à Cayenne. Le Premier ministre français en visite en Guyane ce dimanche. Jean Castex a affirmé que la République n'avait pas ménagé ses moyens pour la Guyane alors que le coronavirus y est toujours très actif. Il a appelé la population à la plus grande vigilance. La Guyane, qui est toujours placée sous l'état d'urgence sanitaire, compte plus de 6000 cas de contamination confirmés. Et puis en France métropolitaine, la pandémie est pour le moment contenue, mais certains médecins lancent un appel pour rendre le port du masque obligatoire dans les lieux fermés. Alors pour savoir si on est immunisé, des tests permettent de découvrir si on a attrapé le coronavirus dans le passé. Il suffit d'une goutte de sang. Des tests rapides sont désormais disponibles en pharmacie. Précision, Laura Martel.
Les pharmaciens sont désormais autorisés, à titre exceptionnel et jusqu'au 30 octobre, précise l'arrêté publié samedi, à réaliser ce qu'on appelle des tests rapides d'orientation diagnostique ou TROD. Jusqu'à présent, ce type de test était uniquement pratiqué dans les laboratoires d'analyse médicale en ville ou à l'hôpital. Concrètement, il s'agit de prélever une goutte de sang, généralement en piquant le bout du doigt, qu'on mélange ensuite à un réactif qui agit en quelques minutes. Si le résultat est positif, cela veut dire que la personne a été exposée au virus et qu'elle a ou est en train de développer une réponse immunitaire selon les anticorps retrouvés dans le sang. Parmi les 51 tests autorisés par le ministère de la Santé, certains ne détectent en effet que les anticorps qui se forment au minimum 14 jours après contact avec le virus. D'autres sont aussi capables de signaler la présence d'anticorps produits plus tôt, une semaine environ après infection. À noter cependant qu'un résultat positif de TROD doit quand même être confirmé par une prise de sang en laboratoire de biologie, puis éventuellement par un test virologique qui pourra permettre de vérifier si le virus est toujours dans l'organisme et donc si la personne risque ou non d'en contaminer d'autres.
Les précisions de Laura Martel. Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile, un journal que vous pouvez réécouter, mais aussi lire sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique RFI Savoir.